Thank you. Les disques de légende. C'est la nuit sur Radio Classique.
Thank you.
Trouvez toute la programmation de Radio Classique de nuit sur radioclassique.fr.
Thank you.
Retrouvez Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
L'invité de Comment j'ai réussi, Guy Alba. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur d'ELA International. Alors, c'est une association pour venir en aide aux personnes atteintes de leucodystrophie. C'est une maladie qui entraîne une dégénérescence du système nerveux à l'origine de très lourds handicaps. En quoi consiste cette maladie? De quelle manière est-ce qu'elle apparaît?
En fait, elle apparaît sans qu'on s'y attende, finalement, puisque dès la naissance, on pourrait le savoir, mais on ne le sait pas. Est-ce qu'on est porteur ou pas de ce type de maladie? Et quelquefois, patatrac, du jour au lendemain, un enfant peut déclarer des premiers symptômes. Ça peut aller très très vite entre l'enfant qui va bien et l'enfant qui est à l'état végétatif. Donc, ce sont des maladies assez effroyables qui touchent, j'allais dire, toutes les fonctions, à la fois psychomentales et physiques, bien sûr.
Alors, la leucodystrophie fait partie de ce qu'on appelle les maladies rares, avec environ un cas toutes les 4700 naissances, crois. C'est-à-dire entre 150 et 300 cas chaque année en France. Mais cette maladie, et vous l'avez souligné, est assez mal dépistée. Pour quelles raisons?
Alors, les raisons, écoutez, elles sont certainement multiples, mais sincèrement, il y a aujourd'hui, on peut pas l'expliquer, vraiment. Les raisons, c'est que la France et d'autres pays d'Europe ont pris du retard sur le dépistage à la naissance de ces enfants. Et pourtant, c'est primordial, c'est déterminant qu'on puisse dépister ces maladies avant, dès le départ, en fait, parce que on pouvait suivre ces enfants sur des mois, voire quelques années, et pourrait repérer le moment où les premiers symptômes pourraient apparaître.
Alors, ça, c'est... Ouais, mais dépister tôt, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il existe un traitement curatif?
Alors oui.
Ou un traitement qui ralentit l'évolution de la maladie?
Pour au moins deux leucodystrophies, c'est pour ça qu'on se bat. Il y existe effectivement des traitements efficaces, mais à condition que les enfants soient dépistés avant même les premiers symptômes. C'est possible, hein. Il suffit d'un IRM qui repère, on va dire, des petites lésions qui démarrent au niveau du cerveau ou de la moelle épinière. Donc c'est tout à fait possible, mais ça ne se fait pas. Aujourd'hui, la France dépiste 16 maladies à la naissance, c'est trop peu. Elle le sait, hein, je peux dire, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut aller augmenter ça. Nous avons, nous, déposé ce qu'on appelle une saisine auprès de la Haute Autorité de Santé, un dossier complet qui permet d'apprécier si ce dépistage est utile ou pas. Évidemment qu'il l'est, puisqu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui naissent, qui sont porteurs de ces maladies, les parents ne le savent pas. Et finalement, les premiers symptômes démarrent. Une fois que les symptômes ont démarré, il est déjà trop tard pour intervenir. Le traitement serait inefficace.
Le dépistage, vous l'avez dit, passe par une IRM. C'est un examen assez lourd. Ce n'est pas juste une prise de sang. Mais est-ce que vous êtes confiant sur le fait que l'intelligence artificielle, qui sait lire particulièrement bien l'imagerie médicale, va permettre d'accélérer justement?
Je pense que les moyens technologiques d'aujourd'hui permettent effectivement, il y a par exemple des recherches sur des tests qui permettraient de dépister au même moment, à la naissance, plusieurs centaines de maladies génétiques. Donc je pense qu'on y va tout droit et ça serait vraiment un plus extraordinaire parce que ça limiterait les coûts et ça permettrait en une seule prise de dépister toutes les maladies rares qui pourraient être inquiétantes et qui pourraient bénéficier d'un traitement derrière.
Mais qu'est-ce qui bloque réellement? C'est un problème budgétaire?
Alors même pas, parce que le test lui-même qui est proposé dans les leucodystrophies dont je me préoccupe, il coûte 1 euro par bébé, donc c'est pas le sujet, je pense. Je pense que il faut simplement qu'il y ait plus de moyens pour les centres de dépistage. C'est pas le cas. Je pense que c'est insuffisant aujourd'hui pour que la France puisse s'organiser comme d'autres pays, hein, c'est pas le seul, à dépister le plus d'enfants possible dans les formes de leucodystrophie que nous connaissons bien et qui sont extrêmement graves.
Alors, vous l'avez dit, la France n'est pas le seul pays concerné, non. Loin de là. Vous avez créé une association dont le but, justement, est de coordonner ces associations au niveau européen.
Oui, ben en fait, j'ai avec quelques parents en 1992 créé l'association ELA en France, qui est devenue un modèle pour d'autres pays et d'autres pays. Donc, ont créé leur association ELA. Évidemment, les associations là, il faut les coordonner. C'est pour ça qu'on a créé une structure internationale qui permet de travailler ensemble, de partager des moyens financiers, notamment pour financer la recherche médicale, et puis pour échanger sur plein de sujets, dont celui du dépistage néonatal d'ailleurs.
Comment est-ce que vous aidez les malades et leurs familles ?
On les aide concrètement au quotidien. On a un service qui est dédié, un service médico-social qui est dédié aux familles et donc qui les aide sur tous les aspects, y compris financiers, pour aménager un véhicule ou aménager un appartement ou une maison suivant les besoins. Et c'est là encore quelque chose de déterminant parce que on pense d'abord à ces familles et ces enfants qui sont malades aujourd'hui et qui pourront malheureusement pas bénéficier des traitements dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut évidemment s'en occuper. Et puis parallèlement, il faut entretenir l'espoir de découvrir de nouveaux traitements, parce que parmi toutes les leucodystrophies dont j'ai parlé tout à l'heure, deux sont traitables. Donc on n'a pas le droit de les laisser en plan et de ne pas se préoccuper du dépistage, mais toutes les autres le sont pas encore.
Donc il faut continuer la recherche.
Ah ben clairement il faut continuer et ça bouge, donc c'est intéressant. Donc il faut absolument donner des solutions à toutes ces formes de leucodystrophie.
Vous soutenez les malades, mais vous soutenez également les aidants. Très souvent, ce sont les familles qui se retrouvent dans le rôle d'aidant avec des week-ends de répit que vous organisez.
Ouais, tout à fait, c'est vrai. C'est d'ailleurs là encore très important, les familles attendent ces moments-là. Quelquefois, c'est le seul moment dans l'année, donc des week-ends assez longs, hein, on profite de week-ends de plusieurs jours. C'est le seul moment dans l'année où ils ont un moment de détente, un moment où ils peuvent poser un peu les valises, ils peuvent échanger avec d'autres parents qui les comprennent bien forcément parce qu'elles vivent le même drame. Et ça fait du bien à tout le monde et ça rebooste, même si à chaque fois on est assez marqué par l'évolution de la maladie chez certains enfants, la plupart malheureusement. Mais malgré tout, cette communauté vit bien et retrouve des ressources pour la suite du combat qui nous attend, en fait.
Merci beaucoup, Guy Alma, d'être venu ce matin nous parler de votre association et de votre combat. Vous êtes président fondateur de ELA International, association pour venir en aide aux personnes atteintes de leucodystrophie.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Stéphane.
Fondateur du cabinet Asterès, avec vous ce matin on parle des métaux critiques, avec la tentation notamment des États-Unis de mettre la main sur le Groenland. Au-delà de ce territoire, est-ce que l'Europe dispose de terres rares et de métaux critiques dans son sous-sol ?
Oui Stéphane, et beaucoup plus qu'on ne le croit. L'Union européenne a déjà officiellement identifié 34 matières premières critiques, ça va du lithium au tungstène en passant par le cobalt ou le gallium. Une partie significative de ces terres rares en réalité sont enfouis dans le sous-sol européen, avec plusieurs exemples qui sont très documentés, en Suède par exemple, au Portugal, en Espagne où on trouve beaucoup de lithium, de tungstène, de cuivre, mais en France aussi où on trouve aussi du tungstène et du lithium, notamment dans le Massif central, en Bretagne et dans les Pyrénées. En réalité, il y a un vrai paradoxe en Europe. L'Europe est dépendante notamment de la Chine, parce qu'elle a arrêté d'extraire et de raffiner ces terres rares, mais elle n'est pas du tout démunie au vu de son sous-sol.
Concrètement, Nicolas, à quoi est-ce que ces terres rares et ces métaux critiques pourraient nous servir ?
À tout ce qui fait l'économie du 21e siècle. Sans ces métaux, en réalité, il n'y a ni batterie, ni éolienne, ni panneaux solaires, ni semi-conducteurs, ni défense, ni intelligence artificielle, ni data center, ni robotique. Or, aujourd'hui, l'Union européenne importe près de 100% de ces terres rares raffinées, 90% viennent de Chine. Autrement dit, la transition énergétique européenne repose sur des chaînes d'approvisionnement que l'Europe ne contrôle pas. Or, exploiter ses propres ressources, en l'occurrence, ce ne serait pas du repli, ce serait reprendre notre maîtrise industrielle.
Donc, nous avons des ressources, est-ce qu'on va se décider à les exploiter, Nicolas ?
Eh bien, je l'espère et je le pense. En 2024, l'Union européenne a adopté le Critical Raw Material Act qui fixe trois objectifs. Premièrement, au moins 10% de l'extraction mondiale européenne doit se faire de son sol. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, 40% du raffinage doit être réalisé en Europe. Troisièmement, 25% du recyclage doit être assuré localement. En réalité, le vrai frein n'est pas géologique, il est politique, juridique et culturel. En Europe, un projet minier met de 10 à 15 ans à sortir du sol, contre 2 à 5 ans ailleurs. Alors il y a évidemment des oppositions politiques, du contentieux juridique, des normes qui sont extrêmement complexes. J'irais presque jusqu'à dire que la mine est devenue un tabou social, alors même qu'elle est indispensable à la décarbonation. Hein. Le paradoxe est là, nous voulons une économie verte, mais nous refusons d'extraire ce qui la rend possible. La bonne question, ça n'est pas est-ce que nous disposons de ces métaux, mais est-ce que nous souhaitons redevenir une puissance industrielle souveraine ?
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour François Vidal.
Bonjour David.
Vous nous parlez ce matin d'un bilan décevant pour les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Pour la France en 2025, elles n'ont reculé que de 1,6%.
Oui, et c'est en deçà de ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs climatiques du pays à l'horizon 2030. Mais il y a deux manières d'analyser ces chiffres. La première consiste à battre notre coulpe, c'est celle qu'adoptent de nombreux observateurs. Ils soulignent à raison d'ailleurs qu'il faudrait aller trois fois plus vite pour être dans les clous, alors même que le dérèglement climatique est une réalité de plus en plus pressante. On pourrait en profiter pour critiquer la révision à la baisse des ambitions gouvernementales sur le sujet, discipline budgétaire oblige, qui témoigne d'un recul dans l'ordre des priorités de l'action publique. On préfère s'armer plutôt que de financer la transition énergétique. Enfin, on pourrait remarquer que le recul des émissions enregistrées l'an dernier est lié à la baisse de l'activité industrielle sur le territoire, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle non plus pour notre économie cette fois-ci.
Mais ce n'est manifestement pas cette grille d'analyse que vous adoptez.
Non, car elle part d'une photographie qui ne rend pas justice au bilan climatique de la France. On oublie souvent de le préciser, mais notre pays est l'un des plus vertueux en la matière en Europe. Quand nous émettons 115 grammes de CO2 par euro de PIB, l'Allemagne, elle, en émet 200 grammes et l'Europe 175 environ en moyenne. L'économie française est donc beaucoup plus verte que celle de ses voisins. C'est un peu comme lorsque vous faites un régime, David, il est plus facile de perdre des kilos quand on est en surpoids que lorsqu'on approche de son poids de forme. Nous en avons tous fait l'expérience. Alors, je ne dis pas que la France ne doit pas faire des efforts, mais il faut rendre justice à notre mix énergétique pauvre en carbone et s'interroger sur le meilleur moyen d'optimiser l'impact des quelques 60 milliards d'euros investis chaque année dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L'éditorial de l'économie par François Vidal avec les échos qui font la une ce matin sur le déclin démographique français. C'est la même chose pour le Figaro. Quant à l'opinion, il titre, lui, le crash agroalimentaire français.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Anthony Clément.
Bonjour Stéphane.
Bienvenue sur Radio Classique. Le moral des TPE-PME s'améliore, nous dit ce matin BPI France. On va commenter ces chiffres et cette tendance avec vous parce que vous connaissez bien les TPE et les PME. Banque Populaire reste la première banque des PME-PMI en France pour la 16e année consécutive. C'est ce que révèle la dernière étude Kantar. Pour quelle raison cette proximité ?
Écoutez Stéphane, j'ai tout d'abord envie de dire un immense merci et puis plus exactement 16 fois merci à nos clients pour cette belle reconnaissance. Et puis, remercier également nos 4500 conseillers de clientèle professionnels, nos chargés d'affaires entreprises, qui tous les jours accompagnent nos clients sur le terrain. Alors, cette enquête, elle a été réalisée par Kantar auprès de 1600 chefs d'entreprise, qui réalisent plus d'un million d'euros et demi de chiffre d'affaires et qui compte 10 à 1000 salariés. Et quatre questions leur ont été posées. Quelle est votre dans quelle banque disposez-vous d'un compte? Est-ce que ce compte est actif? Est-ce que quelles sont vos deux banques principales? Quelle est votre banque principale? Et à chaque fois, Banque Populaire ressort en première position et c'est une immense fierté pour l'ensemble de nos équipes.
C'est une stratégie délibérée de votre part?
Oui, alors ça trouve son origine dans des racines très profondes. Les banques populaires sont des banques tournées vers les entrepreneurs. Elles ont été créées il y a maintenant plus de 150 ans par des entrepreneurs qui, à l'époque, se sont réunis pour pouvoir financer, développer leurs projets. Et puis aujourd'hui, c'est une présence dans tous les territoires. Et puis ce sont aussi de très belles histoires. Et si vous le permettez, Stéphane, je voudrais vous en raconter une. De belles histoires. On est à Jarny, au cœur de la Lorraine. L'entreprise Le Bras Frère, qui a connu des difficultés importantes il y a quelques années, au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'était une période assez tragique. Et cette entreprise a été accompagnée par Banque Populaire. C'est une histoire qui dure depuis maintenant 45 ans. Et l'an dernier, nous avons accompagné la transmission intergénérationnelle. Et être banquier, c'est ça, c'est être présent dans les bons moments, comme dans les moments les plus difficiles. Et c'est pas seulement apporter des financements, c'est aussi dire aux chefs d'entreprise qu'on les aime, qu'on les soutient et qu'on est derrière eux.
Est-ce que cette belle histoire reflète une tendance générale de marché? Est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez toujours autant les banques dans leur financement, du fait notamment de l'augmentation du nombre de faillites l'an dernier? Est-ce que vous êtes aujourd'hui plus prudent dans ce que vous financez?
Alors, peut me permettre de citer des chiffres, et notamment en termes de production de crédit, puisque la production de crédit a été très dynamique en 2025. On a réalisé 22 milliards de financement, c'est plus 12% par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est sur les crédits crédits moyen long terme. Sur le crédit bail, ça a été très dynamique également. On est sur des évolutions de plus 10%, la facturage également. Et donc, ces chiffres démontrent bien l'accompagnement de banques populaires et des banques en général. En revanche, c'est vrai que on est dans un climat un peu plus d'incertitude. Les chefs d'entreprise nous le disent bien. Et vous citiez à cet égard les
défaillances.
Sur les défaillances d'entreprise.
Près de 70 000 l'an dernier.
Exactement, 68 500 très exactement. On est sur une progression de 3% par rapport à l'année précédente. Mais il faut bien voir d'où on vient aussi. Hein. En 2023, c'était plus 38% et en 2024, c'était plus 21%.
Mais du coup, est-ce que vous êtes plus regardant sur la qualité des dossiers? La production de crédit augmente, mais est-ce que vous refusez aujourd'hui davantage de crédit qu'il y a quelques années?
On peut pas dire ça. Et d'ailleurs, les enquêtes montrent que les préoccupations des chefs d'entreprise ne concernent pas les financements en particulier. Leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est la faiblesse de la demande. Dans le contexte que l'on connaît, avec une évolution et une croissance qui est plutôt sur des niveaux de 1%, 0,9%, 1%. Et dans la période actuelle, les Français et les consommateurs consomment peu, justement, préfèrent épargner. On est sur des taux d'épargne qui ont jamais été aussi élevés depuis 45 ans, hors crise sanitaire.
Vous avez réalisé une étude pour mieux connaître justement cette clientèle. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quel est aujourd'hui le panorama des PME et des ETI en France?
Ce qu'on peut dire, c'est que les perspectives semblent s'améliorer. Hein. On en parlait tout à l'heure hors antenne, avec cette enquête de BPI qui démontre qu'on a davantage de dirigeants de TPE-PME qui prévoient une croissance de chiffre d'affaires plutôt qu'une baisse. Donc les perspectives semblent un peu meilleures. On a réalisé, ou notre partenaire Eurogroup Consulting a réalisé une enquête qui va dans le même sens et qui nous démontre que seulement 9% des chefs d'entreprise se disent pessimistes sur 2026. Et nos chefs d'entreprise sont des gens particulièrement combatifs, particulièrement offensifs. Et pour 2026, ils envisagent de mettre le cap sur l'international. Ils veulent aller chercher la croissance là où elle se trouve.
Mais vous, en tant que banquier, vous voyez les comptes des entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont plus prudents dans leur gestion au quotidien du fait de l'incertitude économique?
Oui, on le voit notamment dans le montage des dossiers. C'est vrai que sur nos dossiers de financement, les chefs d'entreprise ont tendance à nous demander un maximum de financement de manière à pouvoir conserver une épargne de précaution pour pouvoir faire face en cas de coup dur. Ça, c'est des choses que l'on voit très concrètement dans les dossiers qui sont étudiés par nos équipes.
Et est-ce que les entreprises réfléchissent davantage aujourd'hui avant de se lancer dans un projet d'investissement pour les mêmes raisons, du fait de l'incertitude économique et de la fragmentation du monde?
Oui, ce sont des choses qu'on constate. On a des chefs d'entreprise qui nous disent vouloir reporter leurs investissements en raison de cette incertitude. Mais encore une fois, les chiffres nous démontrent que c'est pas le cas de tout le monde et que nous avons des entreprises qui sont là aussi pour saisir les opportunités quand elles sont présentes avec des projets de développement. Et on peut parler aussi des barrières douanières, notamment, qui sont un frein à l'exportation. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a des chefs d'entreprise qui réfléchissent à s'implanter directement à l'étranger pour contourner ces difficultés.
Vous êtes un acteur de terrain, c'est comme ça qu'on vous appelle. Est-ce que la relation bancaire avec les entreprises passe toujours par le traditionnel conseiller ou est-ce que de plus en plus, même les petites entreprises se mettent au digital?
Écoutez, le digital est un phénomène de fond. Donc aujourd'hui, voilà, on a tous notre smartphone, la banque dans la poche pour faire ses opérations 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour autant, ce qui fait la réussite des banques de proximité, c'est précisément le fait d'avoir un interlocuteur qui se déplace, qui va visiter les entreprises, qui les connaît, qui vit dans les écosystèmes locaux. Et nous croyons chez Banque Populaire que ce modèle a encore évidemment un bel avenir. Donc c'est une complémentarité.
Merci beaucoup Anthony Clément d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur du développement des entreprises de Banque Populaire. Je rappelle, vous êtes la première banque des PME-PMI en France pour la 16e année consécutive. Et puis j'ajoute, vous en avez parlé, cette enquête de BPI France, 25% des dirigeants de TPE et de PME prévoient une augmentation de leur chiffre d'affaires cette année. Ça peut paraître limité, mais il y a en face 20% qui anticipent une dégradation. Il paraît que c'est une amélioration, David.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Christian.
Bonjour David.
Rendez-vous important aujourd'hui sur l'avenir du Groenland à la Maison Blanche. Jid Evans reçoit des responsables de la politique étrangère du Danemark et du Groenland sur l'avenir de ce territoire convoité par Donald Trump. Et pendant ce temps-là, les Européens discutent, en ordre dispersé, d'une réplique militaire raisonnée.
Oui, on assiste à un bouquet, à une floraison d'initiatives. Ce ne sont que des idées, ce ne sont que des paroles, mais c'est le commencement de l'action. Commençons par exemple par le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, ex-premier ministre lituanien. Il a évoqué la création, carrément, d'une force militaire permanente de 100 000 hommes comme une option possible pour mieux protéger le continent. L'idée est simple, c'est de séduire l'administration Trump en lui montrant que les Européens font un effort supplémentaire, ce qui peut pas contrarier Trump puisque c'est exactement ce qu'il demande, mais d'affecter une partie de ses forces à la zone arctique, Groenland plus pôle Nord, de manière à recouvrir une dimension stratégique, là encore, pour plaire à la Maison-Blanche.
Alors,
pour l'amadouer.
En clair, les Européens signifient aux États-Unis, surtout n'envahissez pas le Groenland, nous allons le défendre à votre place.
Nous allons
c'est
nous
le message
charger.
Subliminal.
Voilà, dans le cadre de l'OTAN, puisque nous avons été des alliés extrêmement fidèles lorsqu'en 2001-2003, il s'est agi d'aller en Afghanistan. Pour la première fois, nous avons fait fonctionner l'article 5 de la charte de l'OTAN, c'est-à-dire l'entente mutuelle et le secours mutuel. Et nous avons obéi comme un seul homme à la demande des États-Unis à l'époque. Donc aujourd'hui, nous vous proposons d'intervenir au Groenland sous des formes diverses à discuter, modalités à convenir ensemble, mais nous vous proposons de mettre tout cela sous le drapeau de l'OTAN, de manière à ce que ce soit irréfutablement les États-Unis qui continuent à contrôler la situation.
Alors
vous ne pourrez pas refuser.
L'idée est assez astucieuse, mais vous dites que les Européens sont en ordre dispersé. Tout le monde n'a pas la même idée de la défense européenne.
Eh bien non, vous avez tout à fait raison, David. Le Royaume-Uni et l'Allemagne envisagent de renforcer, eux, la présence militaire de l'OTAN dans l'Arctique, en particulier au Groenland. Le ministre belge de la Défense a suggéré, lui, une opération de l'OTAN dans le Grand Nord. La France n'est pas contre, mais la France préfère, dans un premier temps, ouvrir un consulat au Groenland. Donc, une action diplomatique. Quant au Danemark, il observe tout ça avec une certaine réserve, parce que le Danemark n'a absolument pas envie d'être le metteur en scène d'une sorte de surgissement, de levée contre les États-Unis. Le Danemark continue à jouer la modération et à essayer de calmer les ardeurs américaines. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui à la Maison Blanche, où le Danois et le Groenlandais vont tenter d'expliquer encore une fois raisonnablement aux Américains qu'il faut écouter et respecter la souveraineté danoise.
Mais enfin, si je vous ai bien compris, l'Europe doit considérer désormais l'Arctique comme une zone stratégique à défendre. C'est-à-dire que le réveil de la défense européenne se déporte sur une zone absolument inattendue.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on propose, et là, c'est la floraison d'idées dont je viens de parler, on propose d'agir dans cette zone-là parce que l'Europe l'a négligée, parce que l'OTAN aussi a négligé l'Arctique.
Christian Macarian pour l'Écho du Monde.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent.
Et qu'elles s'arrachent ma vertu, je crois. C'est ça la suite. Les auditeurs ont reconnu évidemment Daniel Balavoine, qui nous a quittés tragiquement il y a 40 ans. Tout le monde se souvient de ses paroles et de ses mélodies, de ses engagements, de ses coups de gueule également, et surtout d'une voix exceptionnelle au panthéon de ses chanteurs qui ont choisi de faire monter les octaves.
Essayez donc ce matin, David, au réveil, d'aller aussi loin que Daniel Balavoine, SOS terrien en détresse. Voilà ce que donnent quelques 3 octaves en l'espace de quelques secondes.
J'ai jamais
et ça, tout le monde ne sait pas le faire, David.
Hein, sans être ridicule.
Sans être ridicule en plus. Balavoine, dans le club très fermé des chanteurs français, très à l'aise, avec une voix de tête qui va...
Vers le haut.
Eh oui, ces notes aiguës qui poussent Paul Naref à crier son amour pour Marie-Lou, Patrick Juvet à se demander où sont les femmes, ou Mathieu Chédid à nous dire « aime ». Pour Balavoine, cette tessiture exceptionnelle s'est forgée dans un duo de choristes avec son frère. Pour le reste, la nature a bien fait les choses.
La voix est une des choses dont je me vante le moins, puisque c'est quelque chose qu'on a sans le faire exprès. J'ai jamais appris à chanter. Là, je crois que c'est un coup de chance. Enfin, un coup de chance pour ceux qui aiment ça. Évidemment, pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est plutôt emmerdant. Mais c'est comme ça, je crois que c'est la vie. Après l'exploiter, c'est l'opportunisme ou l'amour de la musique, ou le mélange des deux pour quand ça réussit.
Admirable, sa voix est limpide comme du cristal. Elle a brisé mes flûtes.
Alors si les hommes n'arrivent pas à briser le cristal, ils arrivent au moins à faire vibrer les oreilles. Vous entendez là, David, le premier enregistrement de l'histoire d'un homme qui chante aigu, Alessandro Moreschi, l'ange de Rome, dernier castrat encore en vie ici en 1902, la voix de fossé. C'est une histoire de la musique qui nous emmène très haut, c'est-à-dire au XVIIe siècle. C'est l'apogée des falsettistes, le bel canto incarné par Farinelli, Carlo Broschi, castré à 9 ans, célébrissime à 15 ans dans tous les royaumes d'Europe, même l'impératrice d'Autriche était toute chose.
Ce que j'ai ressenti hier soir en vous entendant chanter dépasse mon entendement.
Chantez pour moi, castrato. Encore une fois.
Adressez-vous pour cette chose à votre époux ou à votre amant.
Le falsetto, la voix de fossé, c'est une performance d'exception obtenue par l'accolement mince des cordes vocales, où seule la partie ligamentaire vibre sans la partie musculaire. C'est très technique, en opposition d'ailleurs à la voix de poitrine. Une technique complètement délaissée au 19e, on la tourne même en ridicule au théâtre, 200 ans d'éclipse avant d'être ressuscité par des contre-ténors, Alfred Deller ou encore Philippe Jarouski.
Elle étonne encore beaucoup de gens. Elle interpelle. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter un homme chanter aussi aigu. Pour moi, c'est pas forcément exprimer le féminin chez moi. C'est probablement quelque chose de l'enfance, quelque chose de préservé, quelque chose qui reste intact.
Et même les rockers se prêtent à l'exercice. Vous l'avez peut-être reconnu, Klaus Nomi, chanteur rock allemand qui remet au goût du jour les tonalités du XVIIe siècle, lui aussi, malgré les vents contraires.
J'ai toujours chanté comme ça, même enfant. Je voulais chanter aigu, mais mes professeurs y étaient totalement opposés. Ils disaient que c'était quelque chose pour les femmes, mais j'en ai fait une arme pour marier le rock et le classique.
L'opéra, la voix de tête, c'est un autre nom en Angleterre, ça s'appelle la Sexy Head Voice. On la retrouve chez Queen et Freddie Mercury, chez Sting, chez Jimmy Somerville, et antithèse parfaite de Barry White aussi, chez Earth, Wind & Fire, chez Michael Jackson, sans oublier évidemment les fameux Bee Gees. Quand le falsetto vous donne la fièvre du samedi soir, les Bee Gees, c'est l'histoire d'un accident devenu une signature, racontait le chanteur principal Barry Gibb.
On enregistrait le morceau Nights on Broadway. Mon producteur nous a demandé « Quelqu'un peut crier dans ce morceau ?» Je me suis porté volontaire. Ça a donné... Tout le monde était stupéfié. Depuis, c'est devenu une blague rituelle à chaque fois que je me douche. Quand j'arrive à chanter ça... Ça veut dire que je vais bien.
Moralité, David, à l'heure de la douche, entretenons la voix de fossé qui sommeille en nous. C'est une performance, certes, comme Balavoine, mais c'est sans doute aussi un bon exercice pour garder la forme.
Vous la
n'avez pas vu David Barrou se déhancher sur les Bee Gees et sur